journal de la mi-journée sur Europe 1. Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Des antibiotiques ou encore de l'hypnose pour soigner l'autisme.
Ça vous paraît aberrant et pourtant ce ne sont que deux exemples des multiples arnaques que certains médecins n'ont aucun scrupule à pratiquer auprès de parents dont les enfants sont atteints de cette maladie. En cette journée de lutte contre l'autisme, vous entendrez le témoignage sidérant de la présidente de SOS Autisme France et Mélanie Gomez nous expliquera comment les parents, aidés par les pouvoirs publics, mettent en place une plateforme d'entraide. C'est confirmé, les Français ont tourné le dos au diesel sur le premier trimestre 2019. Les immatriculations perdent 6 points en un an. C'est vrai aussi pour le marché de l'occasion. Conséquence, les propriétaires de voitures diesel n'arrivent pas à les revendre. Info Europe 1, la principale mutuelle des policiers va supprimer de ses fichiers les adresses postales de ses adhérents. Le but étant de protéger les policiers d'un éventuel piratage de coordonnées privées. Dans ce journal également, les premières plaintes des familles dans l'intoxication alimentaire de l'EHPAD de Toulouse. De nouveaux cas d'enfants atteints du cancer à Sainte-Pazanne, près de Nantes. Un des plus hauts responsables de Corse, Gilles Simeoni, boycotte la venue d'Emmanuel Macron sur l'île. Rencontre au sommet entre Pelé et Mbappé. Et un hommage ce matin à Agnès Varda avant ses obsèques dans l'après-midi. La météo, Elena Morna. Hier, vous nous disiez c'était trop beau pour être vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai.
Oui, mais c'est bien. On a besoin de pluie pour nos fruits, nos légumes, nos fleurs, le bonheur. Donc cet après-midi, toutes les fleurs des trois carouasses seront arrosées, donc heureuses. Des averses localement orageuses des Ardennes aux Pyrénées. Des températures qui commencent à baisser cet après-midi sur le nord-ouest.
Et on sera heureux aussi de vous retrouver tout à l'heure. Ce sera juste avant 13h sur Europe 1 pour une météo complète. Europe 1. Et c'est aujourd'hui, Pierre, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.
Oui, et aujourd'hui en France, 700 000 personnes sont atteintes de ce mal, dont 100 000 enfants et adolescents. Chaque année, 7 500 bébés naissent avec ce fléau. Les parents désemparés se tournent alors vers les médecins et c'est là que certains peuvent se retrouver entre de très mauvaises mains, des escrocs, il n'y a pas d'autre mot, qui sans sourciller proposent des remèdes totalement délirants. Écoutez Olivia Catan, la présidente de SOS Autisme France.
J'ai eu par exemple des psychologues qui n'étaient pas psychologues. Certains médecins qui essayent, on va dire, de l'antibiothérapie, des antifongiques, des régimes sans gluten, des régimes sans caséine, des trucs avec des oméga-3, avec des piqûres de vitamine B12. Alors avec plus ou moins de gravité, prendre la vitamine B12, ça ne va pas faire de mal à la personne autiste. Mais par contre, quand on arrive sur des choses plus lourdes, à base de chlore ou à base de javel, alors là, on arrive à des choses quand même très très inquiétantes. Et puis vous avez aussi ceux qui sont partisans de dire, surtout ne vaccinez pas vos enfants, parce que la vaccination cause l'autisme. Or, il y a eu plusieurs études là-dessus, ce n'est pas vrai. On est parfois dans des situations tellement de désespoir, et puis on ne sait pas quoi faire. Voilà, d'un côté, on nous propose des neuroleptiques pour nos gamins, et de l'autre côté, on nous propose des choses étranges. Donc, parfois, on se dit, bon, bah écoutez, c'est moins pire finalement que des neuroleptiques, donc on va pourquoi pas essayer.
Voilà, témoignage édifiant d'Olivia Catan, la présidente de SOS Autisme France, au micro d'Ève Roger.
Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste santé ici à Europe 1. On vient de l'entendre, hein, les exemples d'arnaques sont à la fois sidérants et très nombreux. Pour avoir finalement une information fiable, les parents des enfants autistes, avec le soutien des pouvoirs publics, ont donc décidé de mettre en place une plateforme dédiée.
Oui, alors il s'agit de la plateforme Autisme Info Service, qui est à la fois un numéro vert et un site internet. Cela ouvre aujourd'hui et ça va permettre donc d'avoir un endroit officiel sur lequel on est certain de trouver de l'information fiable en matière d'autisme. Et il y en avait vraiment besoin, car jusque-là, pour les parents d'enfants autistes qui se posaient des questions, le seul réflexe, c'était de se tourner vers les réseaux sociaux ou les forums. Le problème, c'est qu'on y trouve certes de l'entraide, mais l'info n'y est pas toujours très fiable, selon Florent Chapelle, coprésident d'Autisme Info Service.
Mais vous savez bien que sur un réseau social, tout le monde s'exprime. Il dit, bah tiens, vas-y, prends tel médicament, fais ci, fais ça. Par à l'étranger, on parle de grève de moelle osseuse en Chine, n'importe quoi. Je ne dénigre personne, mais à un moment donné, quand on veut être sûr de ce qu'on trouve, il vaut mieux aller vers une source validée.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent?
Sur des questions curieusement d'ordre administratif. C'est-à-dire qu'elles ont besoin qu'on leur donne les moyens d'avancer. Elles veulent trouver un établissement, elles veulent trouver un job pour leur enfant, un logement. Donc voilà, on va les aider à leur expliquer dans ce méandre administratif comment ça fonctionne.
Alors enfin, bien souvent, les parents ont juste besoin d'être mieux orientés vers des professionnels de santé proches de chez eux, mais aussi vers tout simplement vers des services. Et pour ça aussi, Autisme Info Service pourra apporter une réponse puisque le site va proposer un annuaire sur lequel les familles pourront trouver, par exemple, un dentiste, un laboratoire d'analyse ou même un club de poney capable de recevoir les enfants autistes dans de bonnes conditions.
Merci Mélanie Gomez. Et le numéro vert d'Autisme Info Service, c'est le 0800 71 40 40. 0800 71 40 40. Vous retrouvez ce numéro sur notre site europe1.fr.
Il est 12h34. Vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et à la une aussi aujourd'hui, les questions toujours et encore autour de l'intoxication alimentaire. Pierre de l'EHPAD du Lerme, ça se passe près de Toulouse.
Et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sera sur place d'ici une heure. La question qui revient, c'est qui a préparé ce dîner du dimanche soir qui aurait coûté la vie à 5 personnes âgées. Benjamin Peter, vous êtes à la Chêneraie, où les familles s'apprêtent à déposer les premières plaintes.
Oui, au moins 3 familles ont déjà fait savoir qu'elles comptaient porter plainte. C'est le cas d'Emmanuel qui habite en Franche-Comté. Il a été prévenu à 2h du matin du décès de sa maman. Il a pris le premier avion pour Toulouse et veut comprendre ce qui s'est passé.
On est venu avec ma sœur qui habite Lyon en avion, mais on n'a réussi à voir personne. À chaud, il faut savoir raison garder. Quand on place sa maman dans une maison de retraite, c'est pas pour qu'elle finisse intoxiquée.
Vous souhaitez porter plainte ?
Oui. Je vais en discuter avec mes sœurs, mais probablement oui. C'est la seule façon d'avoir accès au dossier aussi, puis savoir ce qui s'est passé.
Et certains réfléchissent même à se regrouper pour mener une action collective, puisque les familles des victimes sont en train de se rendre compte que leurs proches avaient en commun d'être très dépendants et de consommer les aliments exclusivement mixés, une thèse qui intéresse les enquêteurs. Des analyses sur l'appareil qui sert à mixer les repas sont notamment en cours et les autopsies des victimes vont se poursuivre aujourd'hui pour comprendre ce qui a provoqué des décès si soudains quelques heures seulement après le dîner. Et puis dans quelques minutes, un peu après 13h, la ministre de la Santé Agnès Buzyn est attendue dans l'établissement où elle doit rencontrer les équipes de la Chêneraie.
Merci Benjamin Peter à la Chêneraie près de Toulouse pour Europe 1. La santé, c'est aussi la mutuelle. Et Europe 1 vous informait dès ce matin, la principale caisse complémentaire des policiers va supprimer de ses fichiers les adresses postales de ses adhérents. Le but est bien sûr d'éviter tout piratage informatique. On se souvient de ce couple de policiers assassinés à son domicile par un djihadiste en juin 2016. Pour David Olivier Reverdy, délégué national du syndicat Alliance, c'est évidemment une très bonne décision.
Tout ce qui tend à anonymiser nos collègues, tout ce qui tend à éviter qu'on puisse les identifier dans leur vie privée et donc dans le cadre de leur fonction, ça va absolument dans le bon sens. Les attentats, en particulier ceux de Magnanville, ont été extrêmement traumatisants pour nous, puisque le couple abattu avait été identifié comme étant des policiers et on s'en est pris à eux parce qu'ils étaient des policiers qui avaient été reconnus. Donc en tout état de cause, aujourd'hui l'anonymisation est vraiment ce vers quoi il faut tendre pour protéger l'ensemble des collègues, que ce soit dans leur domaine d'activité professionnelle, à savoir tout ce qui est procédure pénale, tout ce qui peut permettre de les identifier, mais également dans leur vie privée et dans leur vie syndicale.
David Olivier Reverdy du syndicat Alliance avec Guillaume Bienne.
Nous vous parlions ce vendredi sur Europe 1 des cas de cancer pédiatrique à Sainte-Pazanne près de Nantes. Eh bien Pierre, 3 nouveaux cas ont été identifiés pendant le week-end.
Oui, 3 nouveaux cas dont un de leucémie. Au total 12 enfants sont donc maintenant atteints dans ce secteur très resserré de la Loire-Atlantique. Mais d'autres témoignages pourraient aggraver ce bilan et sur place l'anxiété est à son comble. Reportage François Coulon.
Le collectif Stop au cancer de nos enfants avait lancé un appel à témoignages vendredi. Plusieurs mails ont fait état ce week-end de nouveaux cas de cancer pédiatrique dans le secteur. 3 d'entre eux sont médicalement confirmés, Marie Thibault.
2 enfants en traitement et 1 enfant en stade de rémission.
Il y en a encore d'autres ?
Éventuellement. Ça fait beaucoup là. C'est beaucoup trop.
À Sainte-Pazanne, l'inquiétude est montée d'un cran hier à la sortie de l'école Maurice Pigeon.
J'ai un petit garçon de 4 ans, c'est une angoisse. Après, on va pas non plus déménager pour aller où, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit de toute façon.
On a très peur pour nos enfants. On se demande si nos enfants vont être touchés. On ne sait pas du tout d'où ça vient. Très inquiétant.
On se perd ici en conjecture, beaucoup privilégient le facteur environnemental.
L'été, il y a ce qu'on appelle l'épandage. Il y a souvent des odeurs qui viennent jusque dans nos jardins. Est-ce que ça viendrait de ça ou pas ? On se pose maintenant des questions.
Je suppose que les vignes, les pesticides, tout ça ont beaucoup à voir. En consommant l'eau, ça doit arriver chez les gens.
Une réunion publique se tiendra jeudi soir à Sainte-Pazanne avec l'ARS. Sainte-Pazanne, François Coulon, Europe.
Il est 12h39.
Europe 1. Restez avec nous, une pause et dans un instant, le diesel en panne sèche, impossible de revendre sa voiture. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 12h41 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et 2009, Pierre, ne 2019. Sera pas... 2009 Oui, 2019, c'est mieux. On est en 2019, hein, oui. Vous me confirmez. Ne sera pas non plus l'année du diesel.
Oui, il y a un véritable désamour de ce carburant, conséquence du Dieselgate de 2015, bien 2015. Hein. Et cette année encore, les chiffres du premier trimestre en témoignent, moins 6 points, alors que les ventes de véhicules essence sont à la hausse. C'est vrai aussi pour le marché de l'occasion qui dévisse Maud Descamps.
Eh bien oui, puisque les ventes de diesel d'occasion ont chuté de 6% l'an dernier, alors que celles des véhicules essence ont bondi de 6%. Donc, l'écart se creuse. Un exemple, sur les 2 millions de voitures d'occasion qui ont été vendues par des professionnels l'année dernière, seulement 1 300 000 étaient des moteurs diesel. Et les particuliers ne sont pas épargnés. Ils ont de plus en plus de mal à vendre. C'est le cas d'Adrien. Cela fait 8 mois qu'il a mis en vente sa berline diesel de 2010.
J'ai un petit peu bougé le prix, donc je l'ai revu à la baisse, bien que malgré tout, je l'ai toujours mis dans la tranche de prix qui correspondait à la gamme du véhicule. J'ai pas plus de touches que ça et parfois je me pose quand même quelques questions. Je pense qu'effectivement, le fait que ce soit un diesel, ça y joue quand même à cause du matraquage qu'on voit à la télévision à propos des moteurs diesel. Et le fait que ça soit une voiture longue, une grosse voiture.
Alors le cas d'Adrien est loin d'être isolé. Hein. Les diesels de plus de 6 ans sont ceux qui se vendent le moins bien. Seules les voitures diesel récentes, c'est-à-dire celles qui ont moins d'un an, se vendent correctement. Et l'une des solutions pour les vendeurs de véhicules plus anciens, eh bien, c'est de se tourner vers le marché étranger. De plus en plus de voitures diesel d'occasion partent vers l'Est de l'Europe.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La Commission européenne sonne les cloches de Londres et alors qu'un nouvel épisode du Brexit pourrait se jouer aujourd'hui, Bruxelles demande aux Anglais de récupérer les arriérés d'impôts auprès de certaines multinationales qui ont bénéficié d'avantages fiscaux indus sur son territoire.
Emmanuel Macron sera en Corse après-demain.
Dans le cadre du grand débat, alors que demain il sera en Bretagne. Mais voilà, le chef de l'État n'est pas le bienvenu. Et d'ailleurs, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, boycottera la rencontre.
Nos demandes ne sont jamais prises en compte. Je dirais même qu'elles ne sont même pas à l'agenda politique. Quant à la réunion de jeudi, là aussi, on nous a expliqué qu'il ne pourrait pas y avoir de véritable échange et que de toute façon, le président ne serait pas là pour répondre aux questions, mais surtout pour écouter ce qui se dirait. Nous avons déjà beaucoup et souvent parlé.
Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir dans une logique de dialogue avec le président de la République, Gilles Simeoni ?
Il faudrait que d'ici à jeudi, le chef de l'État donne des signes forts public de ce qu'il est prêt à, non pas à prendre en compte la totalité de ce que nous disons, il est normal qu'il y ait des désaccords, mais au moins qu'il accepte de mettre à l'agenda politique ce pourquoi les Corses nous ont mandatés pour le suffrage universel.
Gilles Simeoni ce matin dans le journal de 8h d'Europe 1 avec David Doucan et Nikos Aliagas. Ça s'appelle la boulette. 14 prévenus, dont un homme soupçonné d'être un poids lourd du trafic de drogue, ont été remis en liberté à Nice en cause d'une erreur de la justice, en l'occurrence une qualification qui relevait de la cour d'assises et non pas du tribunal correctionnel, un tribunal qui s'est déclaré incompétent.
12h44 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve.
Direction Lyon maintenant, où on va atteindre les 2 semaines de grève pour les éboueurs.
Les éboueurs qui réclament 300 euros net par mois de revalorisation salariale, mais devant les poubelles débordantes, le président de la métropole lyonnaise a pris le taureau par les cornes, Jean-Luc Boujon.
Oui, David Kimmelfeld siffle la fin de la récré. Il a décidé hier de saisir la justice pour pouvoir faire débloquer les dépôts et les incinérateurs bloqués depuis maintenant une semaine. En clair, il dit que les propositions qu'il a faites vendredi sont plus que correctes, des augmentations comprises entre 82 et 150 euros selon les cas, et que donc il est temps de stopper une grève qui dure effectivement depuis 15 jours, avec évidemment des ordures qui s'entassent. Il a donc saisi les tribunaux hier.
Il faut respecter le droit de grève, mais aussi il y a une entrave et donc je voulais faire lever cette entrave. On ne peut pas être tous les jours dans l'escalade des revendications. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête et je crois que le moment est venu pour que les agents considèrent qu'on peut sortir par le haut de ce conflit. Ils ont obtenu des avancées sur les conditions de travail et sur les salaires. Il faut maintenant revenir à la raison et reprendre le travail pour assurer le service public auprès de l'ensemble de nos habitants.
Alors ce matin, un premier incinérateur a été débloqué, celui de Rieux-la-Pape, mais il reste le plus important, celui de Lyon-Gerland, et surtout les dépôts des agents toujours occupés, avec des éboueurs déterminés à ne pas lâcher, à l'image de Claude qui conteste les chiffres donnés par le président de la métropole.
Ce qu'on a mis sur la table, c'est même pas 70 euros net. Vous vous rendez compte? Ils disent 12 jours de grève pour même pas 70 euros. Ça coince, quoi. On n'est pas des voyous. On n'est pas là pour casser. On est juste là pour réclamer notre droit. C'est tout.
Mais vous êtes prêt à continuer à bloquer ou d'attendre éventuellement les CRS?
Voilà, là, on avisera en fonction de l'avancée des événements, on va dire.
Voilà, difficile de prédire ce qui va se passer car les éboueurs sont réunis. On a un collectif un peu comme les Gilets jaunes, en dehors des syndicats qui ne maîtrisent pas grand-chose. En attendant, eh bien, les ordures continuent de s'accumuler sur les trottoirs de la métropole lyonnaise.
Merci Jean-Luc Bougeon en direct de Lyon pour Europe 1. Une dernière minute, puisque le tribunal administratif de Paris, au sujet des débats sur les européennes organisés par France 2 après-demain, avait ordonné à la chaîne de télévision publique d'inviter Benoît Hamon du mouvement Génération, Florian Philippot des Patriotes et François Asselineau de l'UPR. Et bien à l'instant, la chaîne France 2 dit que ces hommes seront présents après-demain au débat.
Il est 12h46. Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant, une rencontre au sommet Mbappé Pelé. C'est sur Europe 1. A tout de suite.
Il est 12h48 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Ouais, ça fait des mois qu'on en parle. Eh bien, ça y est, Pierre, c'est le jour J.
La rencontre entre la légende Pelé et le prodige qui monte, Kylian Mbappé, c'est tout à l'heure à 17h. Et bien sûr, vous y serez, Julien Froment.
Oui, rencontre qui devait avoir lieu en novembre dernier, mais le roi Pelé souffrant avait dû reporter le rendez-vous. Heureusement, pour les amoureux de football, la persévérance de leur sponsor commun a payé. En fin d'après-midi, dans un palace parisien du 6e arrondissement, Pelé, 3 Coupes du Monde, plus de 1000 buts en carrière, sera face à son successeur, Kylian Mbappé, 20 ans, lui aussi champion du monde et qui fait tomber un à un les records de précocité. Les deux hommes semblent s'apprécier. Pelé a fait du français son successeur. Mbappé, poli, quant à lui, a dit « le roi reste le roi ». Un rendez-vous en tout cas au sommet, ultra médiatique, mais surtout très contrôlé. Le secret a été gardé jusqu'au dernier moment. Des journalistes triés sur le volet, impossibilité de poser des questions. Ce seront deux animateurs qui seront chargés de donner du rythme à l'entretien, où il sera certainement question de montre, mais on espère aussi de football.
Merci Julien Froment. Le foot sur le terrain maintenant. Victoire hier soir de l'AS Saint-Etienne de Buzyn face à Nîmes. Les Verts sont désormais quatrième au classement.
Et puis en Coupe de France, demi-finale ce soir. On prend les mêmes, on recommence entre Lyon et le Stade Rennais. Coup d'envoi à 21h10. Je dis ça parce qu'ils jouaient hein, la semaine dernière,
oui,
justement. Dans l'autre sens. Match en jeu multiple, une place en finale, une partie de l'avenir du club aussi qui se joue ce soir, Jean-François Pérez.
Oui, roulement de tambour, hein, soir à suspense qui s'annonce pour l'Olympique Lyonnais, avec tout d'abord la fin du suspense autour de l'avenir de Bruno Genesio. L'entraîneur saura officiellement la fin du match, il reste en poste la saison prochaine. A priori, tout porte à le croire, mais le président Jean-Michel Aulas a assuré vouloir réfléchir jusqu'au bout et il a offert aux supporters de l'OL un feuilleton dont il se serait bien passé. Nombre d'entre eux clament leur défiance vis-à-vis d'un technicien jugé trop limité pour faire de Lyon un grand d'Europe. Genesio, homme du sérail, fidèle à ses couleurs, il se dit meurtre en privé, mais il affiche en public une sérénité à toute épreuve.
Je parle tous les jours avec mon président. Du futur, du club, de la stratégie, de ce qu'on doit améliorer, de ce que je dois améliorer. Je parle tous les jours avec lui de ça. C'est lui qui communiquera, et c'est évidemment qu'on s'est vu.
Voilà, fin du suspense pour Genesio ce soir et soirée particulière également pour les joueurs avec ce match à remporter pour retrouver l'ivresse d'une finale au Stade de France, peut-être face au Paris Saint-Germain. Lyon n'a plus rien gagné depuis 2012, c'est une éternité pour Jean-Michel Aulas qui vient de fêter ses 70 ans, dont quasiment la moitié passée à l'OL. Alors il espère clairement un cadeau pour son anniversaire, cadeau qu'il a pour l'instant offert au public. Hier, sachez que des milliers de places à 1 euro pour le match ont été mises en vente et évidemment elles se sont arrachées sur le site du club.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Puis notez que demain le PSG tenant du titre affrontera Nantes au Parc des Princes.
Il est 12h51 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Ça s'appelle La vie secrète des écrivains et c'est le dernier roman de Guillaume Musso qui sort aujourd'hui chez Calman Lévy. L'auteur français qui vend le plus à travers le monde était ce matin l'invité de Nikos Aliagas dans la matinale et lui aussi a une part de secret.
Moi, je dis toujours que j'écris voilà, des thrillers intimes, c'est-à-dire des romans à suspense, mais dans lequel le suspense est mental et dans lequel le suspense se déploie dans l'intimité, finalement, des personnages.
Des personnages, ouais.
Et on dit souvent la fameuse phrase de Gabriel Garcia Marquez, « Chaque homme a trois vies, une vie publique, une vie privée, une vie secrète ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller fouiller, d'aller gratter la vie secrète de mes personnages, parce qu'on a tous une vie secrète qu'on porte en nous, et qui nous définit, qu'on le veuille ou non.
Guillaume Musso, invité de Nikos Aliagas ce matin sur Europe 1.
Et puis c'est cet après-midi qu'auront lieu, Pierre, les obsèques d'Agnès Varda.
Disparu jeudi dernier à l'âge de 90 ans et avant les obsèques au cimetière du Montparnasse, Nicolas Caro, ce matin, les artistes se sont réunis à la Cinémathèque de Paris où vous vous trouvez, plus particulièrement ceux qui ont collaboré de près avec la cinéaste.
Et oui, et malgré la tristesse, il régnait une forme de bonne humeur à la Cinémathèque. Le directeur de l'institution, Frédéric Bonneau, a présenté des extraits de films et des archives d'Agnès Varda, qui plaisante, qui joue le personnage qu'on connaît. L'espièglerie de la cinéaste est communicative. L'artiste JR, qui a travaillé avec elle ces dernières années, a d'abord eu beaucoup de mal à sécher ses larmes. Puis, il a raconté sa collaboration et sa complicité avec Agnès Varda.
Bien sûr, des fois, elle me rappelait son âge. Hein, quand je me rappelle, on était à l'Élysée une fois. Et puis, moi, j'étais très content d'être là, c'était la première fois. Et elle me dit, je crois que j'ai fait 5 présidents quand on était aux Oscars et que Spielberg nous rappelait qu'il l'a étudié à l'école.
Sandrine Bonner était là aussi. Elle a joué dans l'un des plus grands films d'Agnès Varda, Sans toi ni loi. Un film qui a fait d'elle l'actrice qu'elle est devenue.
Quand je t'ai rencontrée, j'étais une fleur. Peut-être une fleur d'une saison. Et puis après ce beau film fait ensemble, je suis devenue un arbre.
Voilà Agnès Varda qui sera enterrée à 14h au cimetière du Montparnasse. Elle y rejoindra son compagnon Jacques Demy.
Merci Nicolas Caro en direct de la Cinémathèque de Paris.
Merci Pierre, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour les grands titres de ce mardi.
Il est 12h54.
Europe 1. Vous restez avec nous, bien sûr, on va s'intéresser à ceux qui sont atteints d'autisme aujourd'hui. Vous allez voir qu'en France, on ne manque pas d'idées pour les aider à mieux s'insérer dans la société, soulager aussi leur famille. C'est la France qui bouge, on vous attend. À tout de suite.
La Monnaie de Paris vous présente ses pièces de 10 euros argent, pièces d'histoire avec la participation de Stéphane Bern. Cette collection retrace l'histoire de France à travers 9 monnaies historiques du patrimoine français. Pour chaque pièce achetée, 1 euro sera versé à la Fondation du patrimoine pour la mission patrimoine de Stéphane Bern. Disponible à la poste et sur monnaiedeparis.fr, c'est une série limitée à offrir ou à s'offrir dès maintenant.
Europe 1.